Aujourd'hui sur Radio Pulse, nous recevons la jeune artiste normande Nena Sita, une artiste bilingue à la contrée de plusieurs styles et genres musicaux que l'on pourrait qualifier comme de la pop reggaeton hispano-française. Nena Sita nous plonge dans un univers très intime et vibrant où chaque mélodie fait résonner toutes les parois de nos petits cœurs. Mi-novembre, elle a sorti son tout premier EP Pequeños Desastres, un EP de 5 sons accompagné d'un clip magnifique tourné en Normandie pour le son Toka. D'ailleurs, c'est l'extrait que l'on va s'écouter, Toka, issu de son premier projet, et c'est tout bonnement excellent. Bonjour Nena Sita, tu as sorti ton premier EP qui s'appelle Pequeños Desastres, Petit Désastre en français, un album avec, je trouve, des sonorités latines, pop et même hip-hop comme dans le son Toka. Comment toi tu définirais ta musique ?
Je désignerais ma musique de pop, reggaeton, hispano-française. Comme ça je mets toutes les cultures. C'est un petit peu long mais,
c'est le
meilleur que j'ai trouvé pour représenter ma musique.
Du coup, on l'a entendu il y a quelques secondes avec le son Toka. Tu chantes en français et en espagnol. C'est très joli, cette diversité linguistique. Mais pour toi, c'est plus facile d'écrire en français ou en espagnol? Les textes de tes chansons, en fait, elles te viennent d'abord dans quelle langue?
Eh bien, les textes de mes chansons me viennent d'abord en espagnol.
C'est vrai?
J'écris tout le temps en espagnol. Et après, je modifie en rajoutant du français.
Parce que d'où vient cette affinité, en fait, avec la musique et la langue espagnole?
Ma mère est espagnole et mon père est français. Et j'ai toujours parlé les deux langues. Et moi, j'ai toujours écouté du reggaeton et de la pop espagnole. Et d'Amérique latine aussi. C'est ce qui m'inspire beaucoup. Et voilà.
Tu penses en espagnol aussi ou pas du tout?
Je pense. Ça dépend. En vrai, ça dépend du moment. Parce que ça dépend. Et puis, il y a aussi le fait de. Des fois, j'écris en français, mais je traduis en espagnol. En fait, ça dépend vraiment de où je suis. Donc, quel mood je suis, etc.
Et comment tu détermines, en fait, ce duo de langage? Tu te dis, je vais faire les refrains en espagnol et les couplets en français? Ou alors c'est vraiment à l'instinct quand t'écris?
C'est plus quand j'écris et quand je vais enregistrer. Puis après, il y a des mots aussi qu'il faut changer. Mais après, j'ai beaucoup d'aide de Barlemby.
Okay.
Je sais pas si... Tu vois?
c'est quelqu'un? C'est qui?
C'est mon beatmaker, celui qui fait toutes mes prods et mes compositions. Et du coup, quand j'enregistre, j'aime bien être avec lui parce que sur la langue française, il va avoir plus de vocabulaire que moi sur des textes, par exemple. Donc, on va pouvoir changer des mots qui vont mieux rendre avec l'espagnol ensemble.
Et du coup, le fait de se dire « là, je vais faire un refrain en espagnol » et ou alors « là, je vais faire un refrain en français », en fait, c'est un peu de manière aléatoire...
Ça dépend vraiment de la musique.
Ça. Tu parles beaucoup d'amour, de sentiments dans tes musiques. Est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ce genre de sentiments en musique?
La question, elle est hyper compliquée. Alors, c'est plus facile de l'exprimer en musique parce que moi, j'extériorise beaucoup mes sentiments en musique en chantant les chansons de quelqu'un d'autre, par exemple. D'autres gens. Et je trouve que la musique, c'est un bon moyen de parler de ce qu'on ressent, etc. Et la première fois que j'avais écrit une chanson, c'était avec une peine de cœur et j'avais pris mon piano. C'est une petite anecdote que j'ai jamais racontée. Bon. Et bah, du coup, j'étais devant mon piano, j'étais en train de pleurer, etc. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire, à faire des notes sur le piano et à chanter ce que je pensais, etc. Et en fait, j'ai écrit une chanson comme ça.
Ouais, c'est un moyen pour toi d'extérioriser tes sentiments.
C'est ça. Après, il y a des, enfin, toutes les chansons que je raconte ne sont pas toutes vraies. Et mais je m'inspire beaucoup aussi des histoires d'amour de d'autres personnes, etc. Ouais, je trouve ça beau l'amour, je trouve ça inspirant, même si bah du coup des fois ça fait mal, etc.
Bah
mais
ouais.
On va dire que c'est ce qui m'inspire le plus.
Tu t'en as parlé. Tu composes avec un beatmaker. Comment ça se passe en fait votre collaboration?
Alors nous, quand on travaille ensemble, par exemple pour l'EP qui est sorti là, on a fait. Je suis venue sur Caen, du coup dans le studio Pick Up, et voilà. Et du coup, on s'est réservé 5 jours, du coup toute la journée, je crois qu'on faisait 10h-20h, quelque chose comme ça,
okay.
Du coup tous les jours. Et du coup, tout, je me disais mon humeur du jour et mon mood par rapport à la prod que je voulais. Et par exemple, le lundi, j'étais arrivée, oui, je veux un truc un peu plus chill, etc., dans son machin, et en fait on se comprend bien et il comprend totalement où je veux en venir et comment j'aime travailler, et donc du coup il commence à faire une prod à côté de moi, et après en fait on en parle des sonorités, si on aime bien tous les deux, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Et moi je regarde mes paroles à côté, et après ça une fois que la prod elle est terminée, et on réajuste des choses après avec les paroles, et après je rajoute les paroles, on enregistre et voilà. Et okay. On a une maquette, et du coup pour le coup on a fait 5 jours 5 sons
efficace. Mmh. Et est-ce que toi, tu joues d'un instrument?
Du coup, du piano.
Du piano, ok.
Et j'aimerais bien à terme le jouer sur scène aussi, mais pour l'instant, je ne le joue pas sur scène.
Et si je comprends bien, c'est toi qui écris tes textes. Est-ce que tu les écris que en studio, ou alors c'est un peu tout le long de ta vie, en fait, tu continues d'écrire en continu?
Ah non, je les écris tout le temps ailleurs que le studio. Par exemple, si je pars en voyage. En fait, c'est juste si j'ai un moment donné, je pense à quelque chose, ou je suis dans... Je sais pas. Enfin, ça vient tout seul et du coup, j'écris dans mes notes de téléphone ou alors sur mon petit carnet si je suis en voyage. Et après ça, je les retravaille par contre en studio.
Est-ce que t'as des endroits qui t'inspirent plus?
Des endroits, non.
Des lieux particuliers qui t'inspirent?
Le train, c'est inspirant, je trouve. Parce que t'es là en train d'attendre et du coup, t'as plein de choses qui peuvent te venir.
Ouais, il y a un côté monotone un peu.
Ouais, il y a ça. Sinon, après, non, il n'y a pas de lieu. J'ai écrit une des chansons de l'EP, je l'ai écrit à Bali. Du coup, en Indonésie. Il y en a une aussi, je l'ai écrite, mais je ne l'ai pas sortie celle-là. Même temps, je ne sais même pas si je la sortirai un jour. Mais il y en a une que j'ai écrite parce que je stresse en avion. Et donc, j'avais vu dans un livre que les 6 premières minutes, c'était là où tu pouvais faire un crash d'avion. Et bref. Et du coup, par stress, les 6 premières minutes, j'ai mis de la musique dans mes écouteurs, etc. J'ai commencé à écrire. Et en fait, en 6 minutes, j'avais écrit une chanson pour me déstresser. Et c'était vraiment un truc... Je comptais pas en faire une chanson de base, quoi. Mais du coup, j'ai tous les trucs, on verra bien ce que ça donne.
Bah ouais, c'est ça. C'est, bah, quelque part, encore une fois, un moyen d'extérioriser sa peur. Ça passe par la
Exactement.
Musique. C'est quoi ton premier souvenir à la musique que tu as eu?
Oh waouh. Je sais pas. C'est difficile, ça. Bah, on m'a inscrite à la musique quand j'avais 6 ans pour faire du piano.
Ok.
Et de l'éveil musical quand on en a encore un petit peu avant, je crois, 5. 4-5 ans, je sais pas quel âge on a quand on s'est fait de l'éveil musical, mais à ce moment-là. Et non, c'était plus quand j'avais vu ce qui m'a donné envie de faire de la scène, etc. Et de faire des petites chorés, mais c'est assez. Enfin, je trouve ça assez mignon. Mais... C'était quand j'avais vu le clip de Avril Lavigne, le clip Girlfriend, et j'avais fait oh, mais moi je veux être pareil que cette fille. Et, et voilà, par contre, je savais pas qu'un jour j'allais vraiment faire de la musique au final. Mais voilà.
C'est à ce moment-là que tu t'es dit, je veux devenir chanteuse, c'est ce déclic.
Oui. Et un peu plus, quand j'étais un peu plus âgée plutôt, c'était au concert de Jane au Papillon de Nuit. Du coup, c'était en 2007, je pense. Et en fait, quand je l'ai vue sur scène, je sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Mais pas de tristesse, mais je sais pas, trop d'émotion. Et j'ai regardé mes potes et je leur ai dit, mais les filles, mais moi, je veux être là, en fait. Je veux être sur cette scène et faire de la musique et faire ma musique. Et voilà.
Quand on est jeune artiste comme toi, est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui ou alors tu as un emploi à côté?
Non, j'ai totalement un emploi à côté. Moi, j'ai débuté mon projet, du coup, il y a un an et demi. Et après, du coup, j'ai décidé de partir de Normandie, enfin, tout en gardant mon pied à terre, etc., et de vivre, du coup, à Paris pour développer mon projet par là-bas. Et donc, quand on est artiste au début, bah, en fait, on fait tout seul. On peut être accompagné par des structures, mais il faut postuler à toutes à toutes les opportunités, au tremplin, faut faire des demandes de subventions, etc. Et donc, sinon, bah, faut travailler à côté parce que tu fais le travail d'une boîte de production plus du côté artistique.
Ouais.
Donc, tu cherches tes dates, tout ça. Et puis, en plus de ça, ils sont pas forcément obligés de te programmer au début avec un cachet parce qu'ils te pensent artiste très émergent, etc. Mais au fur et à mesure, c'est se faire un réseau, enfin, tout ça, quoi. Du coup, il faut travailler à côté en attendant, à moins que tu aies déjà de l'argent de côté.
Est-ce que tu as commencé à découvrir la scène l'année dernière?
Alors, moi, j'ai fait. Enfin, avec mon projet, oui. Mais sinon, quand j'étais plus petite, au collège et au lycée, je faisais les concerts de fin d'année. Et du coup, ce n'était pas mes chansons. Mais c'était sur des scènes en soi. Et là, non, j'ai découvert ouais, vraiment la scène cette année en arrivant à Paris. Parce que j'ai pu faire des scènes dans des boîtes de nuit et avec des gens qui écoutent de la musique reggaeton, etc. Et donc des gens qui écoutent de base ma musique, enfin mon style de musique, quoi.
Ok.
Donc j'ai découvert là que ça procurait une émotion, mais complètement incroyable d'être sur scène. Et enfin complètement folle, surtout avec des étoiles dans les yeux, je pleurais avec ma manageuse. On pleurait toutes les deux, on était émus de ce qu'on venait de faire. Et sinon, oui, maintenant à Paris, j'ai pu construire aussi une petite équipe, etc. Donc j'ai ma manageuse, j'ai mon ingénieur son pour le live, et j'ai une guitariste qui fait guitare, clavier donc sur le live. Et j'ai appris à Paris à construire tout ça.
Ok.
Et donc on répète dans des studios. Et puis après, bah, j'ai fait ma release party le 17 octobre, là il y a 15 jours. Et c'était très cool. Et puis j'avais fait venir des artistes, autres artistes émergentes, que des femmes, parce que les femmes dans la musique, c'est pas toujours facile. Et donc j'avais fait venir des artistes féminines, dont Maëm, une artiste normande aussi, que j'avais fait venir à Paris.
Quand tu dis release party, c'est quoi exactement?
Ah, c'est la soirée où tu vas montrer ton projet.
Ok, d'accord.
Enfin,
Où tu
tu peux montrer un.
révèles. Ok.
Ouais, où tu révèles ton projet. Donc, ça peut être pour un single tout seul, ça peut être pour un EP, ça peut être pour un album, un clip.
Et comment on fait pour se démarquer et se faire connaître dans la musique quand on est une jeune artiste? Par quoi on commence?
Je sais pas, trouvez-moi la réponse. Mais je sais pas, si moi je devais dire par quoi on commence.
Bah, par où tu as commencé, toi, par exemple?
Moi, j'ai fait du bénévolat depuis que j'ai 16 ans dans les associations musicales, et c'est parce que j'aime beaucoup ça aussi, être dans le côté communication, production derrière. Donc j'étais bénévole dans des assos musicales. J'ai fait ouais plusieurs trucs comme ça. Sinon, bah, après, c'est faire, je pense, c'est le plus important, c'est genre de faire du réseau
Ouais.
et de parler aux gens de ton projet et de pas avoir peur d'y aller et de faire le plus d'événements possible. Moi, je sais qu'à Paris, j'ai pas de soirée de libre parce que j'essaie d'aller à tous les événements que je peux, quoi. Entre aller à des open mic, des scènes ouvertes, etc. Et ou alors à des événements concerts, des événements latinos, des cafés, etc. Avec d'autres partenaires de la musique. Et c'est toujours rencontrer des gens. Et puis même, c'est trop cool de rencontrer d'autres gens et de rencontrer leurs projets. Et du coup, au final, tu rencontres plein d'autres artistes et tu vois comment ils ont travaillé. Et t'apprends des autres. Je sais pas si c'est la bonne manière, mais moi, c'est ce que je fais.
En tout cas, c'est ta manière. Non, bah, j'espère que ça va marcher pour toi. Et quel conseil tu donnerais à des jeunes artistes qui hésitent à se lancer dans la musique, s'il n'y en avait qu'un?
Si tu penses ne pas être légitime de le faire, fais-le quand même.
Le meilleur conseil. Merci beaucoup, Nenacita, d'être venue nous parler à Radio Pulse.